Jean Tormesson, je dois dire qu'on a le plaisir de vous retrouver avec ce guide des égarés publié chez Gallimard et Héloïse Dormesson, je crois que c'est une coédition. Vos lecteurs vont être surpris parce que c'est un tout petit livre d'à peine 120 pages, un petit format à glisser dans la poche. Vous aimez les paradoxes, Jean Dormesson.
Écoutez, en tout cas, je pense qu'il faut changer. Et non seulement il y a eu la Pléiade, mais il y a eu ce livre qui s'appelle, je dirais malgré tout, Cette vie fut belle, qui est un énorme livre, qui a près de 500 pages. J'ai publié récemment un livre dans la collection Bouquin.
Chez Robert Laffont, oui.
Chez Robert Laffont, 1500 pages. 1500 pages avec des romans, trois romans, des articles, les discours de réception de Marguerite Yourcenar. Et ce livre-là, le petit livre, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire un manuel qu'on glisse dans la poche. Je vais vous lire d'où vient l'idée. L'idée vient de Stéphane Hessel.
Avec son Indignez-vous.
Alors, Indignez-vous, c'était un livre encore plus court. C'était un tract. Il y avait 30 pages. Et je me suis dit, on pourrait faire quelque chose peut-être d'un peu moins pessimiste. J'aurais voulu faire quelque chose qui était une sorte de contre-Hessel. Et puis, je me suis dit, oh, parler du bonheur, de l'optimisme, tout ça, c'est des thèmes très connus. Et donc, ça s'est modifié, mais resté l'idée d'un livre très court. Et ensuite, j'ai eu le titre. Vous savez que Malraux disait souvent, où le titre est dans le livre, où il faut l'avoir d'avance.
Alors je dois dire que c'est un titre pompé.
C'est un titre pompé. Je le dis d'ailleurs à la première ligne. C'est un livre qui m'a toujours fasciné. Qu'est-ce que c'est ce livre? C'est un médecin et un philosophe qui vit à Cordoue.
Donc Maïmonide, pour celles et ceux qui nous écoutent.
Et qui écrit un livre très important, qui est un des grands livres du judaïsme, qui s'appelle « Le guide des égarés ». Et ce qui est intéressant, c'est que « Le guide des égarés », dans quelle langue est-ce qu'il est écrit? En arabe. Il est écrit en arabe.
Par un philosophe juif.
Alors, j'ai pris ce titre qui m'a toujours paru magnifique. Et au fond, c'est un tout petit manuel. Ah, je répète sans cesse que ce n'est pas un ouvrage de philosophie, mais enfin, c'est quand même une espèce de manuel de portatif de philosophie à l'usage des nuls.
Puis alors, vous faites le boulot par vous-même. Page 45, je trouve que vous donnez une définition parfaite de ce petit manuel portatif, comme vous dites. Disons-le sans embâge, le manuel que vous êtes en train de lire est tout sauf un traité de philosophie, n'en présente ni la rigueur, ni le savoir, ni la sévérité un peu triste. Il n'a pas d'autre ambition que de décrire avec audace, avec naïveté, avec gaieté ce monde peu vraisemblable. Nous avons été jetés malgré nous et de fournir vaille que vaille quelques brèves indications sur les moyens d'en tirer à la fois un peu de plaisir et s'il se peut de hauteur. Voilà, tout est dit.
C'est bien le projet du livre. De quoi est-ce que je suis parti? Je suis parti d'un sentiment qui est un sentiment véritablement philosophique, qui est l'étonnement. Si on fait de la philosophie, c'est parce qu'on est étonné.
Qui est le premier mot, puisque ce manuel se décompose en 29 mots exactement, et étonnement est le mot qui ouvre ce petit guide.
Vous savez, il y avait un livre de philosophie d'une femme philosophe que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Jeanne Hersch, qui est un petit livre qui est apparu chez Folio, et qui s'appelait « L'étonnement philosophique ». Eh bien, là, Platon disait « Iris est fille de Thomas ». Iris, c'est la science, le savoir, et Thomas, c'est le miracle, l'étonnement. Donc l'étonnement est vraiment le point de départ de la philosophie. Le point de départ de toute philosophie, c'est qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Et donc, si je dis que ce n'est pas un manuel de philosophie, c'est que c'est plutôt une promenade dans ce monde qui m'étonne tellement, et l'étonnement finit par se changer en un autre sentiment qui est l'admiration. J'ai évidemment une forte tendance à l'admiration, qui est un sentiment un peu vieillot, un peu ringard. Mais c'est vrai, j'admire beaucoup, beaucoup de gens, d'abord, des écrivains. Et le monde m'a paru toujours quelque chose de stupéfiant.
Mais l'étonnement, j'ai envie de vous dire aussi que avoir cette faculté de l'étonnement, c'est peut-être aussi le secret d'une jeunesse pérenne.
Oh mon Dieu, pérenne. Enfin oui, j'ai eu de la chance. C'est vrai que d'abord j'ai eu de la chance. Enfin j'ai connu comme tout le monde des contrariétés, même des malheurs.
Alors quand je parle de jeunesse, je parlais d'une jeunesse intellectuelle, évidemment, oui, spirituelle, oui, cérébrale.
Oui. Ça ne durera pas. Comme disait, vous vous rappelez de Gaulle, le merveilleux passage à la télévision où il disait « Oui, bien sûr, je vais vous dire, le général de Gaulle finira par mourir. » C'était épatant. Et bien, en attendant, voilà, la vie est belle. Voilà. Goethe dit ça merveilleusement en allemand. « Wie es auch sei, wie es auch sei, das Leben ist gut. »« Wie es auch sei, c'est quelle qu'elle soit, la vie est belle. » Vous savez, je ne suis pas du tout de ces optimistes qui disent « Ah, oh, comme c'est bien, tous mes bonheurs. » Vous croyez que tous mes bonheurs? Enfin, nous vivons dans un monde abominable. Tout est triste sur notre époque. Pas beaucoup plus que les autres, mais comme les autres, est un peu sinistre. Je n'ai pas besoin de parler du chômage, de la misère, de l'absence d'espérance. Tout ça est un peu sinistre. Mais wie es auch sei, vous êtes malade, la vie est belle quand même. Vous perdez ce que vous aimez, la vie est belle quand même. À quoi est-ce que nous tenons? D'abord à notre vie, et finalement, cette vie va nous être prise. Alors, est-ce que c'est triste? Non, ce n'est pas triste. Vous savez pourquoi nous mourons? Parce que nous vivons. Vivre, c'est mourir. Il faut accepter le tout. Eh bien, j'accepte le tout avec une espèce de bonheur. Si c'est un manuel de philosophie, c'est un manuel d'un promeneur qui se promène dans le monde, un peu les mains dans les poches et le nez en l'air.
L'amour, donc il y a aussi le mot amour dans ce livre, et vous écrivez « Rien de plus simple que l'amour ». En êtes-vous aussi sûr?
Écoutez, parmi les 29 mots, il y a le mot « lumière ». C'est très beau, la lumière.
Vous dites d'ailleurs que c'est peut-être une des choses que vous avez le plus aimées. Plus encore que l'eau.
Oui, la lumière, c'est ce que j'ai peut-être le plus aimé. Même pas les couleurs, la lumière, simplement. J'ai beaucoup aimé ça. Mais c'est très compliqué, la lumière. Vous savez, c'est quelque chose de très compliqué. Comme vous savez, la lumière est liée au temps. Si Einstein, on ne va pas entrer dans les détails de Einstein, mais s'il montre quelque chose, c'est que l'espace, le temps, la lumière sont étroitement mêlés. C'est très compliqué. La vérité, mon Dieu, c'est tellement compliqué. Est-ce que ça existe vraiment? L'amour, c'est très simple. Tout le monde sait ce que c'est que l'amour. Tout le monde sait ce que c'est, l'amour de la patrie, l'amour d'une mère pour son fils, les jeunes amours, les amours de jeunesse, la fin des amours. Tout le monde sait ce que c'est.
On sait ce que c'est, mais est-ce qu'il est si facile que cela à pratiquer et à vivre? C'était le sens de ma question.
Je prétends être catholique, je suis un très mauvais catholique. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau dans la religion catholique? Eh bien, c'est l'amour. S'il y a une clé de la religion catholique, c'est l'amour. C'est un dieu d'amour. Vous avez des dieux qui ressuscitent, et même les dieux qui se font hommes. Vous en trouvez pas mal dans l'Antiquité. Des dieux qui se confondent avec l'amour, il n'y a pratiquement que Jésus. Et ça, c'est quand même quelque chose. Et alors, ce qui est très frappant dans l'amour, c'est qu'il y a un amour à tous les étages. Il y a des amours très belles, magnifiques. Il y a l'amour de Dieu, qui est évidemment l'amour suprême. Et puis, il y a des amours abominables. Il y a des amours dans les fossés. L'amour, c'est quand même aussi une source de malheur très grande.
L'infini à la portée des caniches, comme disait Céline.
Merveilleux, l'amour c'est l'infini, ah, c'est comme c'est bien, l'amour c'est l'infini mis à portée des caniches.
À propos du mal, il y a le mal aussi physique. Vous écrivez à un moment donné, vous parlez du patient écartelé entre un mal qui le fera mourir et un traitement qui le fait souffrir. Quel serait votre choix, Jean d'Ormesson, face à une telle situation?
Ah, vous savez, c'est une question difficile. J'ai été à l'hôpital dans les années passées et je ne me plains pas de mon sort, mais j'ai vu des gens si malheureux, des gens qui ne peuvent même pas expliquer ce qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas les mots nécessaires. Enfin, j'ai vu des choses épouvantables. Cette souffrance, c'est quand même quelque chose d'abominable. Et là encore, il me semble que le christianisme, Jésus, apporte tout de même, s'il apporte quelque chose, c'est une consolation à la souffrance, une consolation aux pauvres, une consolation aux esclaves. Vous savez, c'est quand même Jésus qui dit qu'un esclave, c'est la même chose que César. Et on peut soutenir, à juste titre, je crois, que le Christ est l'ancêtre du socialisme. Vous savez, il y a des gens maintenant qui vous disent que le pape François est communiste. Vous savez, mais il y a des gens d'extrême droite qui vous disent qu'il est communiste. Mais est-ce qu'il n'est pas simplement évangélique? Il y a des passages tellement beaux dans le Nouveau Testament. Vous vous rappelez ce jeune homme qui aime tellement le Christ? Et le Christ lui dit « Abandonne tout et suis-moi ». Et le jeune homme tristement s'en va car il avait de grands biens. C'est pas magnifique? Il s'en va tristement car il avait de grands biens.
Alors, vous terminez, le dernier mot, c'est Dieu. On en a déjà parlé abondamment. Vous parlez davantage dans le livre d'une transcendance. Vous êtes persuadé qu'il existe une transcendance.
Écoutez, vous voulez que je vous dise, j'ai parlé beaucoup de religion. Je vous ai dit que j'étais catholique. Je suis un catholique bizarre, vous savez. Je suis un catholique agnostique. C'est-à-dire que ça me paraît tout à fait évident. Je ne sais pas. J'espère naturellement qu'il y a un Dieu. Je vais vous dire, c'est un peu comme avec les gens de droite ou de gauche. Dès que je parle à un homme de gauche, je me dis franchement, je suis de droite. Mais quand je parle à certains hommes ou femmes de droite, je me dis, ah, je suis quand même un peu à gauche. Eh bien, c'est la même chose. Je ne peux pas arriver à croire. Dieu ne m'a pas donné la foi. Il ne me l'a pas donné. Et tout ce que je peux faire, c'est remplacer la foi par l'espérance. Et c'est vrai, alors là, j'espère qu'il y a quelque chose. Parce que s'il n'y a rien, c'est vraiment trop dur. Écoutez,
c'est absurde.
C'est vraiment... c'est absurde. C'est absurde. Il y a une espèce de grandeur, d'ailleurs, dans l'acceptation de l'absurde, mais c'est absurde. Renan disait, c'est quand même une belle formule, la vérité est peut-être triste. Eh bien, je ne crois pas que la vérité soit triste.
Je vous cite toujours dans ce guide des égarés, la légèreté est belle quand elle est alliée à la profondeur. Je me disais que ça résumait parfaitement Jean d'Ormesson et son œuvre et ses livres. La légèreté, la profondeur dans la légèreté, ou inversement, la légèreté dans la profondeur.
Vous êtes bien indulgent.
Si, vous le savez, on vous définit quand même toujours un peu comme ça. Et vous montrez que ces deux notions ne sont pas incompatibles.
Vous savez, on reprochait à un poète que j'aime beaucoup, qui s'appelle Toulet.
Jean Toulet.
Et on lui disait quand même, c'est très léger ce que vous écrivez, c'est léger. Et il répondait, ce qui est assez bien, léger, oui, comme de la cendre. Eh bien, le comble de la profondeur dans la légèreté, vous savez qui c'est ? Ça, c'est pas moi, c'est Mozart. Mozart, c'est vraiment la légèreté dans la profondeur. Peut-être aussi un écrivain que j'aime de plus en plus, comme La Fontaine. C'est quand même très, très léger, ces histoires de grenouilles. Et c'est épatant. Alors, s'il y a quelque chose que je déteste, c'est la suffisance, l'importance, la solennité. Je dois vous dire que les discours, je ne les supporte presque. Et les mots éternels, vous savez, qu'emploient les hommes politiques, je comprends tellement cette fatigue et ce rejet des gens. Je suis pour un peu de légèreté, mais une légèreté qui nie pas le malheur, qui nie pas la souffrance, et qui défendrait l'idée que c'est très difficile d'être heureux tout seul. Vous savez, il y a deux catégories de gens qui me paraissent terribles. J'aime beaucoup les gens qui sont très durs. Ils sont très durs pour les autres, ils sont très durs pour eux-mêmes. Je les admire beaucoup. Il y a une autre catégorie, c'est les gens qui sont très indulgents. Je me range parmi eux. Je suis très indulgent pour moi-même. Eh bien, je suis très indulgent pour les autres. Ce que je ne supporte plus, c'est les gens qui sont durs pour les autres et tellement indulgents pour eux-mêmes. Alors, naturellement, vous avez les héros et les saints. Les héros et les saints sont durs pour eux-mêmes et indulgents pour les autres.
Je voudrais qu'on revienne sur votre succès et puis cette formidable affection que vous offrent vos lecteurs et les Français. Tout à l'heure, vous montriez encore votre courrier du jour. Voilà, chaque jour, des dizaines de lettres vous arrivent. Est-ce que vous, donc, qui êtes l'objet de cette affection, vous avez explication ? Comment l'expliquez-vous, cet attachement des Français pour vous, ce que vous êtes et ce que vous écrivez, surtout ?
Écoutez, d'abord, évidemment, ça me fait plaisir. Ensuite, vous connaissez le mot de la mère de Napoléon, de Laetitia, à qui on disait « Quel succès, votre fils !» Et elle disait « Pourvu que ça dure !» Probablement, je crois que les gens m'aiment bien parce que j'aime les gens. J'aime les gens. Il y a vraiment des sentiments que je ne connais à peu près pas, la haine. Vraiment, je crois que je ne déteste personne. Il y a sûrement des gens qui me détestent, vous savez. Ne nous faisons pas d'illusions. Mais je ne déteste personne. Et j'essaye, j'ai beaucoup de défauts, mais j'essaye de ne pas avoir trop de défauts, comme la jalousie, l'envie, la marice, tout ce qui diminue un peu les gens. Il faut essayer de vivre un peu plus haut. Et c'est peut-être, s'il fallait dire un mot, qu'est-ce que je représente peut-être aux gens ? Pas tellement l'optimisme. Je ne suis pas tellement optimiste, vous savez, mais la gaieté. Oui, je suis gai. Je suis gai, je pense que... Je crois que c'est drôle de mourir. Pas très drôle. Je pense qu'il faut le prendre pas avec gaieté, ni avec indifférence. Mais il faut accepter le monde comme il est. Je crois que c'est Descartes qui disait « Il vaut mieux se changer soi-même que d'essayer de changer le monde ».
Mais alors justement, il y a un formidable paradoxe, Jean d'Ormesson, c'est que vous incarnez cette gaieté, vous avez ce don, ce talent pour le bonheur, même si vous avez aussi vos souffrances, votre mélancolie, vos doutes. Et voilà, donc vous incarnez cette gaieté dans un monde qui va pourtant si mal. Quel étrange paradoxe. Et les gens pourraient vous en vouloir d'être si heureux alors que le monde va si mal. Et non, ils vous aiment.
Vous savez, ce que vous dites là, ça me touche beaucoup. S'il y a deux mots que j'ai souvent répétés, le premier, c'est « merci ». Et le deuxième, c'est « pardon ». Pardon parce que je me rends bien compte que j'ai eu beaucoup de chance et que beaucoup autour de moi n'ont pas eu cette chance, n'ont pas cette chance. Et en même temps, je ne suis pas de ceux qui disent, vous savez, j'entends beaucoup ça, c'était mieux avant. Non, ce n'était pas mieux avant. Le monde a toujours été difficile. Vous savez, les gens qui disent c'était mieux avant, c'était, pour moi, c'était pas mieux avant. Avant, je serais mort. Je serais déjà mort. J'ai été sauvé par la science. Et donc, le monde a toujours été difficile et il a toujours été beau. Et j'ai souvent répété, je ne crois pas que c'était mieux avant, je ne crois pas non plus que ce sera beaucoup mieux après. Le monde est toujours voué à cette espèce de tension, tension merveilleuse d'ailleurs, entre le mal et le bien, entre la pensée et l'ordre du monde, entre ce que nous pouvons faire de magnifique et ce que nous pouvons tous faire d'affreux.
Vous incarnez, j'allais dire, l'identité heureuse, en quelque sorte, de la France. C'est un slogan juppéiste, ça.
Je dirais d'abord que quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple en Amérique, on se dit qu'on a beaucoup de chance d'avoir un personnel politique qui est très, très critiqué, mais il y a quand même des gens remarquables. Hollande est très sympathique. Il mène une politique que je désapprouve totalement, mais c'est un homme charmant. Mélenchon, je n'ai aucune de ses idées, mais c'est un ami. C'est un ami, je trouve qu'il est très intelligent et j'ai toujours beaucoup de plaisir à rencontrer Mélenchon. À droite, vous savez, si je peux faire quelque chose, c'est d'essayer de maintenir l'unité. Donc, j'ai peut-être des préférences, mais j'essaye de les taire un peu. Il faut se rallier à celui qui va sortir de la primaire. Si vous voulez qu'on fasse un peu de politique, je ne suis pas tellement pour les primaires. Je trouve que les primaires, c'est un retour au système des partis. Et ce n'est pas ce qu'aurait voulu de Gaulle. Il voulait que l'élection se fasse sans intervention des partis. Mais maintenant, on a choisi les primaires et il faut surtout se rallier à celui qui va sortir des primaires.
Justement, vous ne redoutez pas que les candidats se déchirent pendant ces primaires? On a l'impression que le climat est déjà très tendu, qu'il y a une forme de violence.
Voilà. Eh bien, je n'ajouterai pas à cette tension. Et donc, je crois qu'il faut rester le plus calme possible. C'est vrai qu'on se dit que ce système de primaires, à droite ou à gauche, laissera des cicatrices après, qui sont très, très dommageables. Donc, essayons de considérer que les différents candidats ne sont pas des ennemis, même pas des adversaires, que ce sont des concurrents. Chacun dans son camp. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Hollande n'est pas un ennemi, mais c'est un adversaire. Et moi, j'ai deux adversaires, c'est le socialisme à la française et le Front National.
Mais sans attiser les querelles à droite pendant ces primaires, il va bien falloir choisir au premier tour. Votre choix est fait, vous avez une préférence. Et je reviens à cette définition qui vous va bien d'identité heureuse. Alain Juppé, par exemple, pourrait être votre choix.
Je vais vous dire, je trouve Juppé très bien. Je suis un ami de Sarkozy. Je trouve qu'on a été très injuste avec Sarkozy. C'est quand même un homme qui était l'homme à abattre, vous savez. C'était l'homme à abattre. Mais je ne veux pas dire du bien de tout le monde, mais le programme de Fillon est un très bon programme. Je ne suis pas de ceux, je dois vous dire, qui disent « j'ai un candidat et tous les autres sont tout à fait nuls ». Non, même Hollande, je ne le trouve pas nul. Il est très habile. Trop habile, naturellement. Mais enfin, je ne me rallierai pas à Hollande.
Ça n'est pas vraiment un scoop.
Sur les autres, il faut que je me décide. Mais je suis surtout décidé à travailler, si je peux, à l'unité de cette droite.
Mais l'identité heureuse, alors là je parle de la formule, est-ce que vous trouvez que c'est une jolie formule justement, c'est un joli mot d'ordre dans ce monde en ce moment qui est tellement dans le doute et qui va si mal?
Oui, c'est une jolie formule, c'est vrai que c'est aussi, il faut dire que c'est aussi extraordinaire, tout à coup tout le monde parle de l'identité. Vous vous rappelez ce qu'on disait de l'identité quand Sarkozy voulait faire un musée ou une histoire de l'identité. Tout le monde était déchaîné. Et maintenant, tout à coup, l'identité remonte partout, heureuse ou épouvantée.
Je voulais en revenir aux égarés et faire le lien avec l'actualité. Et je me disais que s'il y a bien des égarés dans le monde d'aujourd'hui, ce sont les migrants. Quel regard portez-vous sur ce drame ?
Alors écoutez, ça c'est aussi un problème évidemment tragique. Là encore, bon, il y a quelqu'un qui me paraît formidable, c'est le pape François, qui pousse quand même les choses quelquefois un peu loin. Vous savez, quand on lui dit... Il a répondu, quand on parle de la barbarie musulmane, je pense à la barbarie catholique. C'est quand même hardi. Et puis il a été chercher les Syriens. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas laisser des... Je dirais qu'il y a deux choses. La première, on ne peut pas laisser des gens mourir sur des bateaux où tout à coup on apprend qu'il y a 60 morts dans un bateau. On ne peut pas dire « je suis chrétien et j'abandonne ces gens ». Et la deuxième chose, c'est qu'il est tout à fait absurde de laisser entrer 200, 300, 400 000 personnes en France, alors qu'à un chômage, il n'est pas question de trouver du travail pour ces gens. C'est mettre le feu. Donc, c'est facile de dire ce qu'il faudrait. Ce qu'il faudrait en réalité, c'est travailler en amont et permettre à ces gens de vivre chez eux, de ne pas de rester chez eux, et donc d'assurer la paix au Moyen-Orient. Quel travail d'assurer la paix au Moyen-Orient, mais que la communauté internationale ait laissé ce... empirer les choses comme elles ont empiré en Libye ou en Syrie, c'est consternant. Je suis gaulliste, je ne suis pas pour intervenir militairement, mais on ne peut pas laisser un pays se défaire comme la Syrie, où les gens sont obligés de fuir parce qu'ils ne peuvent plus vivre. C'est là qu'ils doivent vivre, c'est chez eux. Il faut aider, je pense, les pays à vivre et à conserver leurs ressortissants.
Et je boucle la boucle, j'en reviens au symbole de Maïmonide, qui est la démonstration que ben voilà, toutes ces communautés, ces cultures, finalement, peuvent fusionner et vivre en harmonie. C'est le fait que vous ayez choisi ce savant juif écrivant en arabe. Ça, évidemment, pour vous, ça a un sens. C'est un choix que vous n'avez pas fait au hasard.
Mais bien sûr. Vous savez, si je suis hostile à quelque chose, c'est évidemment Daesh qui donne l'image même de la barbarie la plus sauvage. Mais on reproche quelquefois d'être indulgent pour les musulmans. C'est pas que je sois indulgent, c'est que je les admire beaucoup. Je reçois beaucoup de lettres me reprochant ça. On m'envoie les sourates du Coran. Bien sûr, ce n'est pas une religion d'amour. Hein. C'est une religion de la guerre. Mais la culture musulmane, c'est quelque chose. Vous savez, c'est magnifique. Bagdad sous Haroun al-Rachid, Samarkand, Isfahan, c'est magnifique. Le sort des Juifs dans le monde musulman au Moyen-Âge était peut-être meilleur que le sort des Juifs dans les pays chrétiens. La preuve, c'est Cordoue, c'est Maïmonide qui écrit en arabe. Je crois me rappeler que la religion chrétienne, c'est très bizarre, consiste non seulement à aimer ses amis, mais à aimer ses ennemis. Vous savez, c'est quelque chose, ça. Alors, je ne voudrais pas qu'on méprise des gens dont on ne partage pas les idées et qui ne sont pas responsables des horreurs qui sont commises en leur nom, c'est vrai. Il y a eu une formule de Valls qui m'avait paru assez belle. Je veux éviter aux Juifs d'avoir peur et aux musulmans d'avoir honte. C'était assez bien quand même.
Dernière question, Jean d'Ormesson. J'ai l'impression, à chaque fois que je vous retrouve, je vous rencontre, que chaque livre, chaque nouveau livre, c'est une cure de jouvence chez vous. Que voilà, le secret de votre dynamisme, de votre longévité, je ne vais pas dire de votre jeunesse, parce que vous allez encore me reprendre, mais c'est ça, il est là. Ce sont ces livres, c'est l'écriture.
Oui, bien sûr. Vous savez, c'est dur d'écrire. Vous savez, être écrivain, c'est un métier merveilleux. Vous savez, quand vous comparez avec des mineurs de fond ou avec des routiers, c'est un métier merveilleux. C'est un métier très dur aussi. C'est un métier très dur. Souvent, je me dis, j'aurais mieux fait de faire autre chose. Vous savez, quand vous avez écrit 100 pages, dont vous êtes très content que vous la lisez, et que vous vous dites, c'est pas fameux, et que vous les jetez, vous savez, c'est dur de jeter 3 mois de travail. Et en même temps, je ne peux pas faire autre chose que des livres. Dès que je n'écris plus, je deviens odieux, insupportable, je tombe malade. Évidemment, les livres, c'est ma vie.
Donc celui-là n'est pas le dernier.
Alors souvent, on va approcher des livres. Celui-là n'est pas le dernier. Peut-être qu'il sera posthume, l'autre. Mais en tout cas, il est commencé. Et celui-là a 80 pages, et le prochain, on aura 500 ou 600. Mais rassurez-vous, je vous laisse un an et demi, ce ne sera pas avant 2018.
Merci, Jean d'Ormesson.
Merci beaucoup, Bernard.